I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour à tous. Ce matin, comme tous les autres matins d'ailleurs, vous vous êtes peut-être plié à une habitude bien connue de notre société occidentale. Vous avez pris votre petit déjeuner. Un café, quelques tartines ou un bol de céréales et vous voilà parti pour la journée avec le plein d'apports pour tenir jusqu'à la pause de midi. Et si vous avez adopté cette routine, c'est parce qu'on vous l'a toujours dit, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. D'ailleurs, c'est ce que l'on répète souvent à ceux qui ne prennent pas de petit-déj, comme si leur santé en dépendait. Mais qui a décrété un jour que le petit déjeuner prévalait sur le déjeuner ou même le dîner? On connaît tous la rengaine, manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir. Mais d'où est-ce que ça sort, à part de la bouche de vos parents ou des publicités à la télé? Pour bien comprendre, il faut remonter à 2 siècles en arrière, à une époque où le petit déjeuner n'existait tout simplement pas. On avait l'habitude de s'alimenter le matin, mais pas comme aujourd'hui puisqu'on n'avait pas autant de nourriture à disposition et surtout pas de produits estampillés petit-déj comme des biscottes ou des jus de fruits. Il a fallu attendre le milieu du 19e et l'essor d'un nouveau commerce mondial, celui du thé, du café et du chocolat. On en consommait un peu avant, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on a commencé à en faire une habitude le matin et à imposer des codes alimentaires. Quelques décennies plus tard, aux États-Unis, un certain John H. Kellogg a inventé un nouvel aliment, les cornflakes, des pétales de maïs au potentiel commercial énorme. C'est comme ça qu'a débuté l'aventure des céréales au petit-déj à partir de 1907. C'est aussi à ce moment-là que la culture industrielle de l'orange a explosé et qu'on a cherché à caser son jus dans le quotidien des consommateurs, surtout depuis la découverte des vitamines en 1912. Et c'est en 1917 que paraît un article du magazine Good Health qui fera à date, la diététicienne Lena Cooper, une disciple du docteur Kellogg, écrit pour la toute première fois que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, la légende est née. Finalement, on se rend compte que le petit-déj et les produits qui lui sont associés ne sont en réalité qu'une construction commerciale et publicitaire dans notre imaginaire. D'ailleurs, l'immense majorité des études récentes menées sur l'importance de ce repas a été financée par l'industrie céréalière ou bien le lobby du lait. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut faire l'impasse sur le petit-déj, car en se privant de nourriture le matin, on peut être tenté de faire des excès plus tard dans la journée. Mais de nombreux nutritionnistes nous invitent à repenser notre liste de courses, à éviter les sucres omniprésents dans les céréales comme dans les jus de fruits industriels et à revenir à des produits moins transformés.